Anthony Martineau de TVA Sports, tous les mercredis et tous les vendredis. Anthony, encore une victoire très, très importante des Canadiens. Je dirais, victoire convaincante, hein, mon chum?
Convaincante, c'est le terme. Bon matin, d'abord, c'est le fun de se réveiller au lendemain de matchs comme ceux-là. Hier, les Bruins, Tony, avaient piètre allure. Puis ça a commencé le matin. Juste rentrer dans ce vestiaire-là et regarder les noms au-dessus des casiers, ça te fait réaliser qu'il y a une page qui est en train de se tourner. Il faut connaître son hockey en tabarouette pour maîtriser l'essentiel des joueurs des Bruins de Boston en 2025. Là. Moi puis quelques confrères, on se regardait et on se disait hey, « Hé, Colin, c'est plus ce que c'était. Les Bruins nous donnent deux joueurs à la suite de l'entraînement matinal, deux joueurs qui ensemble n'ont même pas 75 matchs d'expérience dans la Ligue nationale. Le coach parle pas aux médias montréalais. Je pense que les Bruins avaient déjà hâte de partir de Montréal avant d'être arrivé. C'est pas quelque chose qui est habituel hein, pour les Bruins, Tony, de débarquer, jouer contre le Canadien, puis de pas faire figure de favori. Puis hier, il y a quelque chose de beau dans ce qui est arrivé, dans le sens que tranquillement, puis là, je te parle des Bruins, mais pour oui. Le Canadien, c'est l'inverse. Le Canadien prend l'ascendant sur ses rivaux, mais le fait grâce à des choses qu'on n'a pas vues depuis tellement longtemps. Nick Suzuki, 80 points. Tu le sais, vous en parlez depuis ce matin, mais ça faisait tellement longtemps que c'était arrivé, Kovalev, que Juraj Slafkovský, quand je lui ai demandé ce qu'il se rappelait de Kovalev, il me dit « Je me rappelle pas d'Alex Kovalev. »
Wow! C'est quelque chose.
Débile, hein?
Le fait qu'on on parlait avec les gars dans le club du matin aujourd'hui, là, Suzuki là, vient d'atteindre le 80 points, lui qui en a 81 en 75 matchs, tout comme le Canadien. Ce que je pense, Anthony, est très significatif ce matin parce que tant va Nick Suzuki, tant vont les Canadiens de Montréal. T'sais, je sais que les Canadiens de Montréal, c'est plus que Nick Suzuki, évidemment. Il y a Lane Hutton, il y a Cole Caulfield, il y a Montembeau. Il y a plusieurs joueurs qui ont leur mot à dire dans le succès, le fameux troisième trio du Canadien, qui joue comme le quatrième trio jouait peut-être en première moitié de la saison, depuis environ un mois et demi, quelques mois. Mais c'est quelque chose. Suzuki, encore une fois, qui va chercher quelques points hier. Ouais. Écoute, il n'arrête pas, là. Il n'arrête pas de produire des points. Puis on parlait avec des gars dans le club du matin, ça va être qui le prochain joueur des Canadiens pour aller chercher 80 points. Puis moi, j'ai dit, je suis allé dans une déclaration un matin. J'ai dit, les gars, je pense honnêtement qu'à un moment donné, là, Caulfield, Hudson et Demidov vont avoir des saisons de 80 points.
Non, mais moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, ce que tu avances, c'est vrai. Puis. Ce qui est impressionnant dans ce que fait Nick Suzuki actuellement, c'est que je ne sais pas si les gens réalisent à quel point Nick Suzuki joue beaucoup, à quel point Nick Suzuki a été surtaxé dans les dernières semaines et pourtant, on dirait qu'il ne va qu'en s'améliorant. Et il n'y a pas de baisse de régime, je me rappelle pas, d'un Nick Suzuki qui n'a pas eu un impact quelconque sur un match. Je ne dis pas qu'il est toujours en train de faire 4-5 points par match. Mais je dis qu'offensivement ou défensivement, Nick Suzuki trouve toujours le moyen d'avoir un quelconque impact, même s'il est parmi les attaquants les plus utilisés de la Ligue. Excusez-moi, là, mais 21 minutes 25, je pense, de moyenne de temps d'utilisation depuis le retour de la pause. C'est immense pour un attaquant et pourtant, deuxième meilleur pointeur de la Ligue. Alors, tu sais, ce que tu dis aussi pour Demidov, Caulfield et Hudson, c'est plus que probable. Selon moi, c'est une question de temps seulement parce que organiquement, tous ensemble, ces gars-là vont s'auto-pousser. Puis un autre aspect impressionnant, de voir Suzuki faire 80 points en ce moment, alors que les autres ne le font pas. C'est le chef de file présentement, mais quand Demidov va arriver et qu'il va prendre un peu d'expérience, Cotson en sera plus à sa saison recrue. Ça va arriver, Tony. C'est pas un hot take, ça. Je pense que tu as raison à 100%.
On écoute Martin.
Juste très direct. Tu sais, comme ils savent, c'est Andy, c'est souvent... Fouane, il amène beaucoup de pesanteur, rapidité là, il est capable de regagner des rondelles. Il met des bonnes rondelles dans la zone. En première période, j'ai aimé notre forecheck, mais c'est l'action après le forecheck qu'on n'était pas capable d'exécuter pour passer plus de temps. En deuxième, on était capable de pas juste forechecker, mais faire l'action après qui part notre zone offensive. Puis c'est pour ça qu'on était chercher beaucoup de volume. C'est stratégique, c'est calculé. Mais tu sais, puis ça prend de l'exécution.
J'ai aimé le premier trio des Canadiens hier soir, naturellement, le troisième trio et le quatrième trio. Malheureusement, j'ai pas beaucoup aimé le deuxième trio, mais quand même, on en passe, on va en parler un peu plus tard, là. C'était un peu plus difficile pour eux autres hier, là. Mais Martin St-Louis qui parle du trio de Dvorak, Gallagher puis Anderson, là. Les trois joueurs, là, ils ont tellement un rôle important. On n'en parle pas beaucoup de ces gars-là, le troisième trio. Mais ils sont là, ils travaillent à tous les matchs, ils ont été constants cette saison. Puis oublie pas, là, dans les dernières années, là, à plusieurs reprises, là, on a critiqué, puis pas à peu près, ces trois joueurs-là. Là.
À plusieurs reprises, ces trois gars-là avaient leur valise de fête, selon les partisans, puis c'était Chabay, on voulait quasiment les donner. Puis, tu sais, ça prend plus que juste de l'offensive dans une équipe. Puis ce qu'il y a de beau avec ces trois gars-là, c'est que on dirait que, je sais pas si ça s'est passé comme ça, là, mais trois vétérans qui ont été tellement critiqués, j'aime penser qu'à un moment donné, ils se sont assis ensemble puis ils se sont dit « Hey, on fait-tu mentir nos dénigreurs? On fait-tu ça? » Puis en ce moment, ça fonctionne tellement bien. Tu sais, en échec avant, hier, ce trio-là depuis, je dis hier, ce trio-là depuis pratiquement le début de la saison mène la charge en termes de jeu nord-sud. On oblige les adversaires à jouer sur les talons. Puis quand t'es le trio qui saute sur la patinoire après le trio de Dvorak, Gallagher, Anderson, t'as comme pas le choix de donner un effort soutenu. Sinon, ça paraît doublement fou. Tu sais, ce que je trouve beau par rapport à ce trio-là aussi, c'est que tous les trois, à leur façon, ont vécu des choses difficiles. Anderson joue en dépit de gros bobos depuis un très long moment. Gallagher, on connaît tous l'histoire tellement tellement triste, tellement touchante de la perte de sa maman. Dvorak, ben de son côté, c'est a été constamment remis en question. Tu sais, le jeu de Gallagher puis Anderson, c'est évident, c'est nord-sud, c'est de l'intensité. Mais Dvorak, lui, c'est un petit peu moins évident son apport. Tu sais, bon sur les pinceurs, bon en termes de positionnement défensif, mais tu sais. Encore là, ah, c'est pas Philippe Danault, il gagne trop cher, échangez-le. Tu sais, les gars lisent ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Alors, de voir que cette année, ces trois-là sont pratiquement le deuxième. Ben, en fait, pas pratiquement. C'est le deuxième meilleur trio du Canadien. C'est très beau. Puis, ça me dit qu'en séries éliminatoires, un trio comme celui-là, ça peut faire des ravages.
En conversation avec Anthony Martineau de TVA Sports, Martin St-Louis encore hier après le match. Gallagher après le match sur son but là. On prend les devants dans le match.
I mean, it was talked about for sure. Obviously, you know, we've been chasing the game a lot lately and we've done a good job of it. But nice to play with the lead a little bit and you know, get used to that as well. I thought we had a pretty good game tonight. You know, it wasn't perfect, but did what we needed to do. And yeah, I mean, as far as we do that, we control our own destiny. So. Enjoy it. I'll leave the rink. Get ready for the next one.
Brendan Gallagher qui dit à tel point le premier but était important. Évidemment, il n'y a pas de buts qui sont marqués en première période. En deuxième période, ils ont frappé tôt. Après 40 secondes, le but de Dvorak. Qu'est-ce que j'ai aimé de Dvorak sur ce but-là, Anthony? Là? Toujours en train de bouger ses pieds. Regarde quand il rentre dans la zone offensive. Regarde, il s'en va en arrière du but. Puis en arrière du but, regarde comment il quitte pour s'en aller dans l'enclave. Puis quand il est dans l'enclave, puis voit un rondelle libre, voit son exécution.
Messieurs, contrat d'entrée de 3 saisons pour Jacob Fowler, le Canadien qui vient tout juste d'en faire l'annonce par voie de communiqué.
OK.
Désolé, wow. Je vous coupe, mais grande nouvelle ce matin, Jacob Fowler qui vient de signer son contrat d'entrée de 3 ans.
OK.
Wow. Wow. Okay. Hey, les gars, je vais en profiter pour vous raconter une petite anecdote que le père de Jacob Fowler m'avait raconté au lendemain de la sélection de Jacob par le Canadien. Puis je vais republier ce texte-là sur les réseaux tantôt parce que je trouve qu'il est à propos. Petit garçon, OK, Jacob Fowler avait plein de jouets dans son salon, OK, puis il y avait 1 an et demi, puis il avait le choix de choisir l'item qu'il voulait, tu sais. Il y avait plein d'affaires, des toutous, des balles et tout. Il est allé piger dans le tas, puis il a pris un petit bâton de hockey du Canadien de Montréal, qui était par terre. Puis son père me dit qu'à partir de ce moment-là, il ne l'a plus jamais lâché. Puis ça a été le début d'une histoire d'amour, non seulement entre Jacob et le hockey, mais entre Jacob et le Canadien de Montréal. Alors, tout au long de sa vie, Jacob Fowler a voulu appartenir au Canadien de Montréal.
Wow.
Et ça a commencé là, par un simple petit geste de « Hey, je vais prendre ce bâton-là, j'aime le logo ». Puis il a grandi en voulant appartenir aux Canadiens de Montréal. Le père de Jacob Fowler a été en couple avec une Québécoise. On dirait que le titre de l'article, c'est le destin tricolore de Jacob Fowler. Des fois, on dirait qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie. Je pense que Jacob Fowler était dû pour atterrir à Montréal. Puis si on parle de Demi Dodd, on parle de Rainbacker, on parle de. Mais tu sais, n'oublions pas l'importance et le futur impact que pourrait avoir Jacob Fowler avec le Canadien. Ça aussi, c'est à prendre en compte dans le futur de l'équipe. Là.
Merci beaucoup pour ça, Alex, parce qu'évidemment, le Canadien de Montréal l'ont rendu officiel, mais j'aimerais te dire que de façon non officielle, la nouvelle a été
sortie
hier sur...
Sur X?
Non, sur The Sick Podcast.
Ah oui? Hein?
The Eye Test avec Jimmy Murphy, qui lui animait une émission avec Pierre Maguire hier du pub McLean's au centre-ville. Okay. Et à 16h09, Jimmy Murphy, du Sick Podcast, The Eye Test, la même compagnie, a sorti la nouvelle que les Canadiens se sont entendus sur un contrat d'entrée avec Jacob Fowler.
C'est pour ça que tu me regardais comme un chevreuil au milieu de l'autoroute quand j'ai fait la nouvelle. Hein?
En passant, le Rocket de Laval a aussi publié un tweet pour dire que oui, les Canadiens de Montréal ont annoncé que l'organisation s'est entendue sur le terme d'un contrat d'entrée de 3 saisons avec le gardien Jacob Fowler. Fowler a également signé un contrat d'une saison à un volet dans la Ligue américaine pour la fin de la saison, cette saison, avec le Rocket. Anthony Martino, Michael Pezzetta a été souvent critiqué dans la dernière année. Là. Souvent critiqué. Là. Il n'est pas bon, il n'est pas un joueur de Ligue nationale, blablabla. C'est un affront que les Canadiens font, que le 12e attaquant, c'est Michael Pezzetta, yada, 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 toutes ces choses-là. Là.
Ouais.
Michael Pezzetta, hier, là, tu sais, ce gars-là, on ne peut pas lui reprocher de ne pas donner son 120%. Il y a eu 7 minutes 47 secondes, et dans ces 7 minutes 47 secondes-là, Michael Pezzetta a eu 7 mises en échec. Puis le but de Gallagher, là, ça commence avec un échec avant de Michael Pezzetta. Et ensuite, Jake Evans, puis ça touche au patin d'Evans. Puis ça tombe sur la palette de Brendan Gallagher, qui lui est seul dans l'enclave, qui marque le but. Pezzetta était colossal hier, là.
C'est un pas pire ratio, hein? 7 mises en échec en 7 minutes.
C'est fantastique. Hey, je viens de voir ton garçon dans tes bras, là. C'est fantastique, ça. Pour la première fois dans le forum, un de nos collaborateurs avec son garçon dans ses bras. Hey, c'est phénoménal, cette photo-là, là.
Ouais, Jaden, Martino, mon petit garçon, je suis à la maison avec mes deux, puis
Jaden est en train de
jouer au hockey.
Reste là, bouge pas.
Tony est en train de se faire un selfie de lui en studio
Check ça.
Sur le YouTube. C'est incroyable. Okay, wow.
Fais-tu un pouce, bébé? Fais-tu un pouce? Non.
Il veut pas. Si tu fais-tu un pouce, son petit gars, il est là, non.
Il comprend qu'il est à la télé, là.
Wow.
Non, mais écoute, il est en train de jouer au hockey justement à côté de mon petit studio, puis il s'est cogné, blessure au bas du corps, alors il est venu se faire consoler auprès de son papa.
Mais c'est correct, Anderson, le médecin. Dis-lui qu'Anderson joue blessé depuis le début de l'année.
C'est vrai, bébé, Anderson, il joue blessé depuis le début de la saison.
Pourquoi?
Ben, parce qu'il y a plein de bobos, mais il joue quand même, puis il marque des buts en plus. Savais-tu? Ouais, hein? On va soigner ça tantôt.
En parlant d'Anderson, 5 mises en échec pour lui hier soir. 5 mises en échec pour Heinemann. Un Emil Heinemann que j'ai trouvé beaucoup plus impliqué hier soir. Là. Au niveau de l'implication, peut-être le meilleur effort qu'on a vu de lui depuis son retour de la blessure.
Non, 100%. Puis tu sais, juste pour finir sur Pezzetta, moi je trouve ça, puis après ça, oui, on va assurément parler d'Heinemann, mais tu sais, Pezzetta, les gens sont durs avec lui. J'entends des gens dire, ouais, il joue le rôle de policier, mais il fait pas le boulot. Il y a n'importe qui pourrait prendre sa place. Michael Pezzetta a un rôle ingrat, celui de 13e attaquant de l'équipe, mais il a toujours gardé une attitude irréprochable. Dans le gymnase, c'est une bête. Il est adoré de ses coéquipiers. Puis, tu sais, moi, je me suis fait lancer des tomates à un moment cette année quand j'ai dit, après 5-6 minutes de jeu, il avait joué 3 présences. Puis, j'ai dit, hey, jusqu'ici, là, après 6 minutes, je me rappelle pas c'est quel match. Mais j'ai dit, Michael Pezzetta est l'attaquant le plus visible du Canadien de Montréal. Michael Pezzetta n'a pas le choix de jouer selon ce qu'on lui demande de faire. Tu sais, Mike, tu vas jouer 5 minutes aujourd'hui. Vas-y. Mais c'est pas nécessairement facile de passer des fois des 20 minutes consécutives sur le banc, de sauter sur la patinoire, puis de pas faire d'erreur. Pareil comme un gardien de but qui reçoit pas de lancer pendant 20 minutes, il en reçoit un, oh tabarouette, il est froid, là. Michael Pezzetta, à chaque pause publicitaire, va faire des tours de patinoire. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il se garde réveillé. Alors, à ce moment-ci de la saison, Martin Saint-Louis l'a résumé hier. je fais jouer Michael Pezzetta parce que je sais ce qu'il va me donner. Et depuis qu'il est dans l'alignement, l'équipe gagne. Alors, tu sais, à la question, est-ce qu'on rentre Kapanen pour Pezzetta dans les prochains matchs? Hey, un pour un, Kapanen, demain matin, là, est meilleur que Michael Pezzetta. Mais on parle quand même d'un entraîneur qui porte la même cravate depuis 3 mois et demi. Alors, je pense que ça va en prendre beaucoup pour qu'il décide de changer son line-up quand l'équipe gagne. Hyndman maintenant. Oui. Hyndman oui. ne produit pas, mais il frappe. Il est parmi les meilleurs en termes de mise en échec distribuée depuis le retour de la pause. Puis tout ça globalement, ça fait quoi? Ça fait que hier contre les Bruins de Boston, qui clairement sont nos Centre Bell, à défaut d'avoir du talent, ben sont venus essayer de brasser. Mais le Canadien depuis le début de la saison est capable de répondre quand ça brasse. Goulet, Anderson, Hyndman. Et même les petits joueurs ne se laissent pas intimider, et ça à l'aube de potentielles séries éliminatoires. C'est primordial parce que je vous apprendrai rien, Tony, Alex et tout le monde qui nous écoute, en vous disant qu'en série, l'intensité monte d'un cran. Mais le Canadien de Montréal 2025 a prouvé qu'il était capable de répondre à toutes les sortes d'intensités qu'on lui mettait dans le visage.
Tu sais, depuis que Jake Evans a signé son contrat aussi, parce qu'on l'a, on vient de parler d'Hyneman qui joue son meilleur match depuis qu'il est revenu de la blessure. Là. Jake Evans, depuis qu'il avait signé son contrat, bien honnêtement, Anthony, j'ai pas aimé son jeu. Et pas du tout. Mm-hmm. Il en arrachait même dans les mises en jeu. C'était difficile pour lui. Là, t'sais. Je savais qu'il pouvait pas produire au rythme qu'il produisait cette année en première moitié de la saison, là, parce que ça aurait été trop demandé. Là. Mais Jake Evans aussi, hier, là, pour moi, il a eu le meilleur match qu'il a eu depuis fort longtemps. Il y a eu deux passes dans ce match-là. Évidemment, la passe sur le but de Gallagher, la passe sur le but de Suzuki à la fin, dans le filet des airs. Il y a eu deux lancers au but, il y a eu deux mises en échec, mais écoute bien ça, les mises en jeu, il a gagné 8 sur 11 là, pour 73%. Là, ça fait du bien, là, parce qu'hier soir, encore une fois, le Canadien avait trois trios qui ont vraiment bien fonctionné, puis peut-être même là, trois trios, puis un joueur, peut-être une dizaine d'attaquants qui allaient très, très bien hier soir. J'ai trouvé que c'était plus difficile pour Newhook, et j'ai trouvé que c'était un match difficile pour Patrick Laine, moi.
Ouais, puis il faut pas avoir peur de le dire quand ça arrive, là, même si c'est un peu tabou de dire que Patrick Laine connaît des matchs difficiles de temps en temps, faut pas avoir peur de le dire. Encore une fois, je rappelle son efficacité en avantage numérique. Je veux rappeler aussi que depuis le retour de la pause, il y a eu plusieurs matchs de meilleure qualité à 5 contre 5, mais hier c'était compliqué. J'avais l'impression des fois qu'il patinait dans des sables mouvants, Patrick Laine. Puis c'est pas nécessairement par manque de désir, mais hier c'était un match difficile pour lui. Et t'as besoin de ton sniper à son meilleur sur une unité comme celle-là, parce qu'encore une fois, Hyndman ne produit pas depuis le retour de la pause. Newhook, c'est une intensité qui est constante. J'aime beaucoup son travail en échec avant, mais Newhook peut pas être nécessairement toujours le moteur de son trio, surtout pas sur un deuxième trio. Alors, Laine, des fois, c'est des passes à l'aveuglette, des passes molles, c'est des jeux le long de la rampe qui sont difficiles, qui nuisent à son équipe et qui prolongent les séquences en territoire défensif parce qu'ils causent des revirements. Il faut pas... Parce que vous remarquerez une chose, là, un truc qui nuit à Patrick Laine, selon moi, surtout en zone défensive, c'est qu'il ne freine pas. Patrick Laine tourne. Il tourne pour ne pas être pris flat foot parce qu'il est conscient qu'en termes de départ, ce n'est pas un gars qui est explosif. Mais le fait de pas freiner des fois et de tourner du mauvais côté, ben ça permet au porteur de la rondelle de poursuivre les séquences en territoire défensif, en territoire offensif. Alors, tout ça mis ensemble fait qu'hier, oui, effectivement, ça a été compliqué pour le trio numéro 2, mais en passant, tout ça fait en sorte que c'est encore plus important de souligner l'apport du premier trio, parce qu'à 5 contre 5, le trio de Suzuki, malgré le pointage final, est le seul avec un Corsi positif hier. Ça veut dire que les autres trios se sont fait outshooter.
Exact. Qu'est-ce que c'est tes impressions pour la fin de semaine? Samedi soir contre Philadelphie, dimanche soir à Nashville?
David Savard a dit quoi d'intéressant hier dans le vestiaire par rapport à Philadelphie. Il dit, le dernier match contre eux, c'était spécial. T'arrives là, changement d'entraîneur, on savait que ça allait être compliqué. Mais là, on a une meilleure idée de la façon dont on doit les prendre. Alors, écoute, moi, tu sais, rendu là, honnêtement, faut être courageux là, pour miser contre le Canadien de Montréal. On dirait que ce club-là trouve toujours une façon de surprendre. Alors, contre les Flyers, je m'attends à un club qui continue sa séquence. Contre les Prédateurs à Nashville, les Prédateurs sont très décevants cette année. Alors, allons-y donc pour deux victoires. Wow. Puis on se reparle mercredi prochain.
avec une position en série encore plus consolidée qu'actuellement, tiens.
Ça va être fantastique. Anthony Martino, une autre excellente semaine de radio. Merci, mon chum. Bonne fin de semaine. Amuse-toi avec ton garçon. Ciao, ciao.
Ben oui, salut les amis. Toujours le fun.
OK, donc c'est officiel. C'est officiel. Jacob Fowler avec l'organisation des Canadiens, mais avec le Rocket d'ici la fin de la saison.